Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi tout le monde et bonne deuxième semaine ici à Hors-jeu. Ici votre animateur Julien Mossionnaire en compagnie cette semaine d'un invité spécial, mon seul invité aujourd'hui, grand sportif Félix Ayotte.
Oui, bonjour.
Salut Félix, comment ça va aujourd'hui?
Ça va super bien, une belle journée.
Ouais, hein? Écoute Félix, merci d'être avec moi aujourd'hui. Parle-moi donc de toi un peu là.
Donc, moi, j'étais un étudiant ici à l'Université de Sherbrooke, puis sur le volet sportif, je joue deck hockey depuis environ 5 ans, puis c'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui, d'un peu du comment ça se passe dans le monde du deck hockey.
Parfait, puis juste pour être sûr, quand tu dis que tu joues au deck hockey, dans quelle ligue tu évolues en ce moment?
En ce moment, j'évolue dans la LNHB, qui est la ligue professionnel ici au Québec, donc ça regroupe une douzaine d'équipes à travers la province.
Donc tu vas venir nous parler de ton expérience dans la Ligue nationale d'hockey-ball et ce que tu fais aussi en même temps, j'imagine.
Oui, exactement. Donc un peu tout ce qui entoure le deck hockey ici à Sherbrooke puis sur la scène provinciale au Québec.
Parfait. Ben merci mon cher. Bien hâte de jaser ça avec toi. Mais avant de se lancer sur le vif du sujet, on va passer en revue les résultats de la fin de semaine pour nos équipes du Vert et Or. Et pour rester constant avec la semaine dernière, je vais commencer par parler de football. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, j'étais en compagnie de Jérémy Lassalle en fin de semaine pour commenter le match de football du Vert et Or à la radio. Et malgré une grosse défaite de 26-6 du Vert et Or, c'était un très bon match, là. Donc, comme j'ai mentionné, le Vert et Or affrontait les Carabins de l'Université de Montréal pour une deuxième fois cette saison. Et pour la deuxième fois, c'est malheureusement une défaite qui nous attendait. Et c'était toute une clinique de football de la part de Jonathan Sénécal, l'un des meilleurs carrières du RSEQ en ce moment, qui a explosé pour 338 verges et 3 touchés en seulement 3 quarts de jeu parce qu'il a cité le restant du quatrième quart, remplacé par son remplaçant. Par contre, faut que je le dise, je suis d'accord avec le coach Régin Bald avec qui j'ai eu une entrevue il y a 2 semaines. Il y a des points positifs à retenir de cette défaite-là encore une fois. Malgré les 26 points comptes en fin de semaine pour l'unité défensive, j'ai été agréablement surpris de la prestation de l'unité défensive qui est menée par des joueurs comme Édouard Boivin qui à plusieurs reprises pendant le match a été capable de mettre de la pression sur Jonathan Sénécal, puis on le voyait bien là, tout au long du match, du moment qu'Édouard Boivin était capable de passer la ligne offensive des Carabins, Jonathan Sénécal prenait ses jambes à son cou et il n'avait pas le choix de se débarrasser du ballon. Puis c'est arrivé plusieurs fois dans le match et Boivin a même été capable d'aller chercher un sac du corps. Avec 3 matchs restants au calendrier régulier pour le Vert et Or, l'équipe n'a malheureusement plus le choix d'aller chercher au moins une victoire d'ici la fin de la saison pour espérer se qualifier pour les séries éliminatoires. Parce qu'en ce moment, il reste juste Concordia qui a une victoire à date avec 4 défaites si je ne me trompe pas. Donc, une fiche d'une victoire qui a défaite, le Vert et Or qui a une fiche de 0 victoire, 5 défaites. Donc, comme l'année dernière, ben la participation aux séries risque de se jouer sur le dernier match de la saison. Et l'année passée, le dernier match de la saison, on avait réussi à se qualifier là, avec un nombre de points nécessaires qu'on devait marquer, puis on est allé chercher ce nombre de points-là. Donc, ça va être très, très intéressant à suivre pour la suite, là, mais une chose est certaine, c'est que les hommes de Kevin Régin-Bald doivent se retrousser les manches et jouer leur meilleur football de la saison pour les matchs restants. Parlons golf maintenant. Félix, je sais que ça va t'intéresser. Donc, en fin de semaine, il y avait lieu le dernier tournoi de golf universitaire de la saison, Club de golf de Gatineau. Et ma foi, quelle performance de l'équipe féminine qui s'est hissée sur la 3e marche du podium en récoltant une médaille de bronze au classement général de la saison. Saison marquée par les performances respectives de Mathilde Denicourt, qui a terminé au 2e rang du classement individuel pour une 2e année consécutive, en plus d'être sélectionnée sur la 1ère équipe d'étoiles du RSEQ. Donc, félicitations Mathilde. Puis l'équipe a aussi réussi à s'hisser en 3e place du classement général grâce à une 9e place au classement pour l'athlète de 3e année, Elisabeth Pelletier. Puis les trois autres athlètes complétant l'équipe, soit Véronique Laplante, Alice Piché et Béatrice Ovington, ont pour leur part terminé 19e, 22e et 25e respectivement. Donc une bonne performance là, pour les équipes du Varior en golf. La saison qui vient tout juste de se terminer, on peut juste être fier de l'équipe féminine. Du côté du golf masculin, par contre, ça a été un peu plus compliqué. Performance un peu moins convaincante qui a permis à l'équipe quand même de se glisser en sixième position. Menée par la recrue Marc-Antoine Morissette qui avait très bien fait sur le premier 18 en terminant avec une moyenne de moins 1. Ça s'est malheureusement envenimé pour les deux autres prochains 18. Là. Marc-Antoine Morissette qui a fini avec un plus 11 et un plus 12, si je ne m'abuse, pour les deux autres 18. Là. Donc, on l'a échappé un peu en deuxième partie du tournoi. Puis, il a été rejoint par ses coéquipiers Vincent Desjardins, Nicolas Proulx et William Daou qui ont respectivement terminé 27e, 33e, 37e et 38e. Du côté du soccer masculin maintenant. Première victoire enfin pour l'équipe de masculine de soccer jeudi dernier contre les Patriotes de l'UQTR. Donc jeudi dernier, on avait droit à un programme double. Donc les femmes jouaient le premier match contre les Patriotes suivi du match des hommes. Donc une fin de semaine chargée qui s'est terminée sur une fiche de victoire de une victoire et une défaite du côté des hommes et des femmes. Donc, après avoir été victorieux jeudi dernier par la marque de 3-0 sur des buts de Olivier Florent Dumoulin, qui était l'athlète de la semaine dernière, Étienne Tremblay et Nathan Quinn, le Varior a finalement perdu son deuxième match dimanche le 29 par la marque de 3-0 contre les Carabins de l'Université de Montréal. C'était la même chose du côté des femmes, donc comme j'ai mentionné, une victoire et une défaite en fin de semaine aussi. Par contre, cette victoire-là pour l'équipe féminine fait remonter l'équipe de la 6e à la 5e place au classement. Donc, félicitations à vous, mesdames. Et c'était un premier match assez convaincant là, contre l'UQTR. On a gagné 2-1. Et encore une fois, un but d'André Arroy qui a permis aux Varior de remporter cette partie. Mais malheureusement, la séquence de 5 matchs sans défaite pour le Varior féminin au soccer s'est terminée par une défaite par la marque de 5-0 contre les Carabins à Montréal avant-hier. Ça a donc arrêté leur série de matchs invaincus à 5. Puis avec 5 matchs encore à faire d'ici la fin du calendrier régulier, l'espoir de faire les séries éliminatoires reste quand même présent pour l'équipe féminine là, qui sont présentement à 2 petits points de la 4e place occupée par l'UQAM, qui est quelque chose qu'on peut malheureusement pas dire pour l'équipe masculine là, qui est encore au 6 ou 7e rang, si je ne me trompe pas, avec seulement une victoire à leur actif. Donc, ça fait pas nécessairement le topo pour tout de suite. Je vais revenir à l'équipe de football. J'ai passé très rapidement. Mais Félix, si tu veux discuter de ça un peu avec moi. Donc, on est rendu à 5 défaites jusqu'à maintenant pour l'équipe de football du Varior. C'est pas très encourageant pour la suite. Encore une fois, Jérémy Fife qui a eu beaucoup de misère à effectuer ses lectures sur les jeux. On l'a vu récolter 2 interceptions, dont une interception dans le champ centre, alors que j'ai essayé de vulgariser ça un peu là, sur le flat, sur le champ gauche, il y avait un joueur grand ouvert et Fife n'a malheureusement pas été capable de diriger ses yeux vers là. Il a fini par lancer sa 2e interception du match. Tout de même, ça reste quand même une bonne prestation offensive là, pour l'équipe du Varior. L'attaque au sol a fait beaucoup de ravages. Encore une fois, Jonathan Martel-Joseph qui répond présent. William Marchand qui termine le match avec 9 attrapés. Donc, clairement, le security blanket ou le petit dépanneur de Jérémy Fife. Là. Donc, à chaque fois qu'il tourne les yeux vers William Marchand, son receveur est presque toujours libre. Mais encore une fois, l'offensive du Varior qui est incapable d'aller chercher des points. Donc, on se souviendra contre le Rouge et Or la semaine dernière. Les 2 seuls points du Varior venaient d'un toucher de sûreté. Ben, cette semaine, les 6 points du Varior viennent de botté de placement. Donc, c'est les unités spéciales qui ont été chercher les points du Varior. Et malheureusement, ben, l'offensive qui était capable d'aider la défensive dans ce match parce que l'unité défensive fait un énorme travail. On a vu à plusieurs reprises les demi-défensifs du Varior arrêter les joueurs comme Wellens Gabriel, qui a fait un excellent match. Là, c'est un joueur que j'ai comparé à un certain Deebo Samuel des 49ers de San Francisco. Joueur très explosif qui a quand même terminé le match là, en bas de 100 verges de réception. Donc, malgré là, le gros match de Jonathan Senecal, les demi-défensifs du Varior ont quand même réussi à limiter les dégâts là, pour les verges de réception pour les receveurs. Mais toutefois, là, c'était un match assez difficile pour nos équipes. Là. Donc, Félix, as-tu un petit mot à dire là-dessus? Je sais que tu n'as pas suivi le match là, jusqu'à maintenant, mais quand même, qu'est-ce que tu espères, toi, pour la fin de la saison de l'équipe de football?
Ben, pour la suite, c'est sûr que le coach Réginbald va devoir trouver des solutions. Donc, cette semaine, on affronte Concordia. Donc, ça va être vraiment un bon test. Puis, on n'aura pas le choix vraiment de gagner si on veut espérer une participation aux séries éliminatoires, parce que comme tu as dit, on est actuellement à 0-5, puis Concordia sera à une victoire, 4 défaites. Donc si eux se retrouvent à 2 victoires, ensuite de ça, il va falloir absolument gagner contre Laval et McGill, ce qui va être une tâche très, très ardue. Donc le match en fin de semaine, ça va être vraiment le point décisif de la saison, puis on espère que notre Varior va être en mesure de répondre à la commande, puis d'effectuer une très bonne performance.
Merci Félix pour ce petit commentaire. Donc nous, on va aller en courte pause et on vous revient le plus tôt possible sur les ondes de CFAQ 88.3. Et nous voilà de retour sur les ondes de hors-jeu à CFAQ 88.3. Donc avant de se lancer dans la chronique de Félix sur la LNHB, on avait le goût de parler un peu des compétitions qu'il y avait en fin de semaine dans le monde du sport professionnel. Donc, premièrement, la Coupe des Présidents, tournoi de golf qui avait lieu à Montréal. Donc, Félix, parle-nous de ça un peu.
Oui, donc ça opposait l'équipe des États-Unis versus l'équipe internationale qui regroupait des joueurs d'un peu partout, Japon, Australie. Et on avait 3 représentants du Canada qui nous faisaient honneur. Donc, malheureusement, ça s'est pas super bien terminé pour l'équipe internationale qui s'est inclinée 18.5 à 11.5. Donc, faut savoir que ce tournoi-là est un petit peu spécial comparé au tournoi de la PGA habituel. Donc, c'est en équipe. Donc, il y a 3 jours, donc le jeudi, vendredi, samedi, que c'est des compétitions par équipe qui fonctionnent avec un certain pointage. Puis le dimanche, c'est des affrontements 1 contre 1. De l'équipe des États-Unis versus l'équipe internationale. Donc, malgré une belle bataille de nos Canadiens, ils n'ont pas été capables de faire face à la puissance des États-Unis.
Parfait. Merci, Félix, pour ce petit topo. On va quand même mentionner, par contre, que la Coupe des Présidents à Montréal a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines, là, notamment avec l'investissement du gouvernement de 5 millions, si je ne m'abuse, là, pour des retombées qui était estimé à l'équivalence de 70 millions à peu près. Donc, ça fait beaucoup couler d'encre, justement, dans les dernières semaines, là, tout comme l'investissement de la part du ministre Girard pour l'avenue des Kings de Los Angeles, qui est censé être cette semaine, si je ne me trompe pas, à Québec. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser encore là, des investissements de la part de nos gouvernements fédéral et provincial dans le monde du sport qui laisse peut-être un peu à désirer, là, surtout que la Coupe des Présidents a fait beaucoup jaser aussi pour niveau de sécurité. Donc, on se rappellera là, lors de la fin de semaine du Grand Prix de Montréal au mois de juin, il y avait eu des cas semblables, là, donc plusieurs commerces qui avaient dû fermer leurs portes la soirée même parce qu'il y avait des règles qui n'avaient pas été respectées. Donc, encore une fois, je pense que la Ville de Montréal n'était pas prête à accueillir autant de partisans, cette fois-ci des partisans de golf. C'est sûr que le golf n'est pas un sport qui attire autant de spectateurs que la Formule 1. Là, le Grand Prix de Montréal avait attiré, je pense, quelque chose comme entre 250 à 300 000 spectateurs, ce qui est quelque chose de quand même assez énorme là, quand on se compare au match du Canadien de Montréal qui attire une foule d'à peu près 20 000 personnes en un soir. Là, c'était comme l'équivalence de quasiment 100 000 personnes par jour pour la F1. Puis pour la Coupe des Présidents, c'est pas aussi important, mais quand même, là, quand on a des joueurs comme Xander Chavalet, puis c'est qui les autres joueurs, Félix, qui faisaient partie de l'équipe?
On avait Colin Morikawa, puis le numéro 1 en ce moment, Scotty Scheffler.
Ouais, Scotty Scheffler, voilà. L'homme, en fait, je vais dire, l'homme du moment dans le monde du golf, là, Scheffler, qui a remporté aussi la médaille d'or aux Jeux olympiques, si je me trompe pas. Donc, sur une énorme lancée pour Scheffler. Et Ben, maintenant qu'on a parlé de golf, j'aimerais ça parler de baseball parce que la saison de la MLB vient tout juste de se terminer. Et quelle saison on a eu droit de la part de Shohei Ohtani, qui est un lanceur pour les Dodgers de Los Angeles, qui a établi un nouveau record cette année là, en créant le club de 50-50, soit 50 home runs en une saison, 50 coups de circuit et 50 buts volés, pour finalement terminer la saison avec 54 coups de circuit et 59 buts volés. Pour un joueur à deux volets comme Ohtani, qui est un lanceur et un joueur offensif, je peux me dire que c'est une performance incroyable. C'est sûr qu'on l'a pas vu lancer autant cette année que dans les saisons précédentes. Avec son nouveau contrat qu'il a signé cet été, les Dodgers voulaient clairement permettre à Ohtani de rester en forme, là, mais avec une grosse saison comme ça, je pense que c'est un pari réussi pour les Dodgers là, qui vont entrer en série éliminatoire dans les prochaines semaines et qui vont quand même avoir une chance là, d'aller chercher la série mondiale. Et mis à part là, Ohtani, on va se rendre de l'autre côté de la ligue. Un certain Aaron Judge des Yankees de New York, encore une fois, incroyable performance, qui est un joueur autant défensif qu'offensif. Là. Judge qui avait établi un nouveau record de coups de circuit l'année dernière, qui est revenu en force cette année avec 58 coups de circuit. Donc, c'est 12 de moins que l'année dernière, si je me trompe pas. Mais encore une fois, Aaron Judge qui démontre à tout le monde dans le monde du baseball qu'il est le meilleur joueur sur la planète en ce moment, même avec la présence de Shohei Ohtani. Aaron Judge est le plus gros cogneur depuis Babe Ruth et il a pas fini. Là. Il s'arrêtera pas. Les Yankees s'en vont en série. Les Yankees pourraient eux aussi avoir une bonne chance là, d'aller chercher la série mondiale. Et toujours dans le monde de la MLB, un autre record qui est un peu plus funeste, si je peux me permettre de dire ça, alors que les White Sox de Chicago, équipe dont j'ai été voir un match cet été, ont établi le nouveau record de défaites. Donc, 121 défaites cette saison pour les White Sox de Chicago. C'est désastreux pour une équipe qui a eu plusieurs joueurs blessés cette année. Une équipe qui avait beaucoup de misère aussi là, à attirer des partisans lors de ses matchs. Donc, moi, j'avais assisté à un match au mois de juillet contre les Yankees. Match où Aaron Judge a frappé son 300e coup de circuit en carrière. L'ambiance était incroyable. Et les White Sox menaient jusqu'en septième manche là, par la marque de 1-0 jusqu'à temps qu'Aaron Judge marque son 300e coup de circuit et que le match finisse par se terminer 10-2. Donc, malheureusement, pour moi qui était un fan des White Sox pour ce match, un désastre à partir de la septième manche là, parce que tout le monde croyait que les White Sox allaient s'en sortir avec une victoire, mais malheureusement, Aaron Judge oblige, les White Sox ont perdu et ont continué de perdre jusqu'à établir un nouveau record. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la Coupe des Présidents et de la fin de saison dans la MLB, Félix, on va parler de toi un peu. On va parler avec toi surtout. Donc tu t'es présenté un peu en début d'émission. Parle-nous un peu plus de toi. C'est quoi ton parcours scolaire, tes implications?
Oui, donc dans le fond, moi, je suis natif de Sherbrooke, donc j'ai grandi à Sherbrooke, j'ai été au secondaire, au cégep, puis là, maintenant, je suis à l'université depuis 3 ans, c'est ma 3e année. Donc, sur le plan sportif, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je joue au deck hockey depuis 4 ans. Avant ça, je jouais au hockey aussi toute mon enfance. J'ai fait la transition entre le hockey sur glace puis le deck hockey au début de la pandémie, alors que malheureusement, les saisons d'hockey ont été annulées. Puis heureusement, en contrepartie, ben, les saisons de deck ont pu se poursuivre un petit peu plus longtemps, malgré que ça a été aussi annulé par un certain moment. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre aussitôt que j'ai commencé à jouer. J'ai pu retrouver le niveau de compétition que j'étais en train de perdre au hockey sur glace, parce que veux pas, on grandit, puis nos chemins se terminent pas mal à ce moment-là. Donc, ce que j'aime vraiment du deck hockey, c'est la communauté autour. Donc, tout le monde s'aime, se parle, se connaît, puis c'est pas long qu'on arrive vraiment à trouver notre place au sein de cette communauté-là. Donc, c'est vraiment ça que j'aime, l'esprit rassembleur.
Super, merci pour cette belle réponse là. Pour avoir joué un peu au deck hockey, c'est sûr pas au même niveau que toi, mais quand même on a joué ensemble là, je peux quand même dire que c'est quelque chose qui est véritable là. La communauté deck hockey est pas mal plus soudée que la communauté d'hockey sur glace là, si je peux me permettre de dire ça. Je pense que le hockey sur glace est en train de devenir de plus en plus un sport un peu plus toxique là, avec la violence qu'il y a envers les arbitres, que ça soit par les parents des estrades ou même des joueurs sur la glace. T'sais, je pense que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup moins au deck hockey, principalement parce que c'est des joueurs qui sont un peu plus matures là. C'est souvent des joueurs en fin de carrière d'hockey sur glace qui vont faire le changement là. Ça, c'est plus quand on se dirige vers les catégories d'âge un peu plus élevées, parce qu'il y a quand même ça joue quand même assez jeune. Mais tout ça pour dire quand même que l'énergie est vraisemblablement différente là, je peux le dire. Puis donc, comme tu as mentionné, tu joues dans la Ligue nationale d'hockey-ball, qui est la nouvelle ligue professionnelle d'hockey-ball au Québec. Donc, parle-nous un peu de la ligue, depuis quand ça existe, il y a combien d'équipes. C'est quoi le niveau des joueurs aussi qu'on retrouve dans cette ligue-là?
Oui, donc ça a été fondé environ il y a 5 ans par nul autre qu'Alex Burrows, qui est maintenant entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal, si je ne m'abuse. Donc, il a toujours eu à cœur de faire promouvoir ce sport ici au Québec, puis à l'international. Donc, Alex Burrows, pour ceux qui ne le savent pas, donc après sa carrière de hockey sur glace, s'est mis lui aussi à jouer au deck, puis il voulait vraiment que ce sport-là prenne de l'expansion. Donc, il a créé également les tournois, donc la tournée Alex Burrows, qui est environ 7 à 8 événements par année, un peu partout au travers du Québec, pour permettre aux joueurs de tous les niveaux de se rassembler puis de jouer dans un esprit de compétition. Donc, pour revenir à la NHB, c'est une ligue qui regroupe 12 équipes un peu partout à travers le Québec. Donc, on va à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières. Puis, pour ma part, moi, j'ai été repêché par les Lynx de Victoriaville. Donc, même si je suis originaire de Sherbrooke, les Lynx ont vu de l'intérêt en moi. Donc, c'était ma première année cette saison. Ça joue seulement l'été, donc de mai à août. C'est une vingtaine de parties qui est faite en programme double. Donc, dans le fond, il y a 10 programmes doubles dans la saison. Puis, il faut se classer parmi les 8 premiers pour faire les séries. Malheureusement, nous, les Lynx de Victo, on est une équipe très jeune. Donc, on n'a pas pu se classer pour les séries cette année. Mais on est actuellement en reconstruction pour améliorer notre offensive et espérer faire les séries au cours des prochaines années.
Reconstruction un peu comme les Canadiens en ce moment. J'espère que vous avez pas trop de blessés.
Non, au niveau des blessés, ça va bien, mais je vous dirais que il nous manque un petit peu d'expérience en ce moment.
Ouais, ça c'est sûr. Ben, tu sais, quand on compare aux plus grandes équipes de la LNHB, là, comme le Camping Île-Marie, l'équipe de Sherbrooke, c'est sûr que le niveau de jeu doit être différent. Parce que c'est une équipe qui est un peu plus ancrée, je crois, dans la Ligue là, jusqu'à maintenant. C'est une équipe qui a plus de succès aussi, je crois.
Oui.
Qui a réussi à aller chercher des plus grands joueurs. Je pense que tu peux en...
Oui, ben c'est sûr que le Camping Île-Marie, c'est une dynastie au sein de la LNHB. Donc, ils ont gagné 3 championnats dans les 4 dernières années. Donc, c'est vraiment l'équipe à déloger. C'est une gang d'amis qui jouent ensemble depuis qu'ils ont 14 ou 15 ans. Donc, la chimie est vraiment là. Puis, c'est vraiment difficile autant quand on va jouer à Sherbrooke à cause des partisans que quand eux vont jouer sur la route à cause justement de leur noyau de joueurs qui est incroyable.
Parfait. Puis, ça va me diriger vers une autre question aussi, justement. C'est quoi le niveau de jeu qu'on peut retrouver au sein de la LNHB? J'imagine quand même que c'est des joueurs... Qui sortent peut-être du junior A, junior 2A, peut-être des anciens joueurs de la LHJMQ. Donc, parle-moi donc de ça un peu.
Oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs joueurs de la LHJMQ. Donc, le niveau de jeu est assez relevé. On retrouve également certains joueurs qui jouent dans la Ligue nord-américaine de hockey. Puis, on a même quelques joueurs qui évoluent au sein de la East Coast League aux États-Unis, puis de la Ligue américaine également au Canada et aux États-Unis. Donc, le niveau de jeu, c'est assez relevé. C'est des joueurs, justement, qui veulent se garder en forme pour pendant l'été, justement dans le but de revenir prêt à leur camp d'entraînement dans leurs équipes respectives l'hiver. Puis ben là, ça fait manchette un petit peu dans les derniers jours, mais le joueur étoile du PSL de Lévis est Cédric Paré. Je sais pas si ce petit nom vous dit quelque chose, mais il est en ce moment dans une grande controverse à propos de la blessure qu'il a fait subir à Patrick Laine. Donc, dans le monde du deck, c'est un joueur qui était respecté, qui était dominant, mais là, malheureusement, dans le monde du hockey sur glace, c'est pas la même histoire.
Ça parle bien que tu parles de Cédric Paré parce que je vais avoir long à dire sur Cédric Paré. Au retour de la pause, on se revoit dans quelques minutes sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Et nous sommes de retour, toujours en compagnie de Julien Massionnaire et Félix Ayotte. On va continuer notre entrevue, mais on va garder le sujet Cédric Paré pour un peu plus tard dans l'émission. Donc, Félix, tu mentionnes que tu joues dans la Ligue nationale de hockey-ball, qui est la Ligue professionnelle de hockey-ball au Québec, mais tu es aussi un étudiant. Donc, comme tu as mentionné, oui, tu joues juste l'été dans la LNHB, mais pendant la saison morte, ça consiste à quoi? Tu sais, mélanger tes études avec le sport aussi?
Oui, ben c'est sûr que ça demande beaucoup d'organisation, dans le sens que il faut pas perdre de temps. Donc, je joue au deck hockey environ 3 à 4 fois par semaine durant la saison morte pour se garder en shape, si je peux dire ainsi, puis s'assurer que notre niveau de jeu continue de s'améliorer puis qu'on continue de se développer en tant que joueur. Donc, c'est pas toujours facile, mais on y arrive. Puis ici à Sherbrooke, il y a plusieurs joueurs de haut niveau. Donc, au niveau de la LNHB, on parle d'environ une 40aine de joueurs qui proviennent de la région de Sherbrooke. Donc, c'est assez facile de pouvoir garder un certain niveau de compétition puisqu'on joue contre ces mêmes joueurs tout au long de l'hiver. Donc, depuis quelques années, il y a aussi la Ligue Elite, donc qui est au Pro Gym Deck Hockey à Sherbrooke, qui regroupe environ une 50aine de joueurs. Donc, c'est vraiment cette ligue-là qui nous permet de se retrouver mercredi après mercredi, puis de pouvoir évoluer tous ensemble dans un esprit un petit peu plus ludique. Donc, tu sais, c'est une ligue que tout le monde se connaît, tout le monde joue ensemble depuis plusieurs années, donc c'est facile justement de créer des connexions, puis d'avoir du fun ensemble pour que le deck reste notre passion.
J'imagine que la Ligue d'élite, là, on peut comparer ça un peu aux ligues Pro AM qu'il y a aux États-Unis, notamment au basket ou quelque chose comme ça. Là, des ligues qui permettent aux joueurs professionnels puis aux amateurs, en fait, de pratiquer le même sport ensemble, j'imagine.
Oui, exactement. Donc, c'est un peu ça. Là. Donc, c'est juste, cependant, juste des joueurs de Sherbrooke et de la région. Donc, il existe également une Ligue élite à Granby depuis cette année. C'est une nouveauté. Donc, oui, ça permet justement de se regrouper, de rester ensemble, puis de pouvoir s'améliorer tous ensemble.
Ouais, donc clairement, ben le deck hockey est un sport en expansion là depuis quelques années là avec la venue de la LNHB, puis là comme tu mentionnes une nouvelle ligue d'élite à Granby, tu sais, je pense qu'on peut se permettre de dire que ça sera pas la dernière qui va voir le jour là, peut-être la seule cette année, mais j'imagine que tu es confiant que d'ici quelques années, il va y avoir un peu plus de ligues et plus d'équipes dans les LNHB aussi qui vont faire leur apparition.
Oui, donc je crois bien que c'est difficile à en fait avoir une expansion au niveau de la LNHB, mais dans les prochaines années, donc le commissionnaire ainsi que les dirigeants veulent agrandir la ligue, ça c'est certain. Donc on voit que c'est vraiment populaire. Il y a parfois des foules qui peuvent aller jusqu'à entre 500 et 1000 personnes en série. Donc surtout ici à Sherbrooke, la communauté est vraiment rallié derrière leur équipe du Camping Île-Marie. Donc, on peut voir qu'à chaque année, il y a de plus en plus de supporters, il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés envers cette ligue-là. Puis, ben, les équipes, justement, ils sont en expansion également. Donc, les équipes vont tout faire en leur pouvoir pour attirer le plus de gens à leur partie. Donc, on peut dire que la ligue est de, l'avenir est de bon augure.
Ouais, puis justement, tu sais, on mentionne peut-être potentielle expansion pour la ligue, mais pour avoir expansion, ça prend quand même une relève au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des entraîneurs, des niveaux de jeu aussi, les tactiques et tout. Donc, parle-moi un peu de ça, tu sais, comment la ligue fait pour développer les jeunes, tu sais, que ça soit au niveau relève, mais aussi pour développer ces joueurs qui jouent en ce moment.
Oui, donc ils ont, c'est la deuxième année maintenant que la LNHB Prospect existe. Donc si on veut comparer ça un peu à dans le monde du hockey sur glace, ça serait l'équivalent de la Ligue américaine de hockey. Donc chaque équipe de la LNHB ont une équipe prospect. Donc
un
c'est
club école.
Ouais,
j'imagine.
Exact, un peu l'équivalent d'un club école, puis ça permet justement aux jeunes joueurs de 25 ans et moins de se faire approcher de puis de voir un peu le niveau de jeu que ça prendrait pour atteindre les plus hauts sommets. Donc c'est vraiment bien justement pour le futur de la ligue, puis ça permet aux jeunes de 18 ans en montant de pouvoir se développer. Puis au niveau de la LNHB, il y a une nouvelle règle qui est en vigueur depuis 3 saisons qui est on est obligé, chaque équipe doit avoir en uniforme au moins 2 joueurs de 23 ans et moins. Donc, il y a encore cette règle-là dans le but de favoriser le développement des jeunes puis assurer une relève pour la suite. Puis nous, si je peux ajouter ici, dans notre équipe de Victoriaville, on est plus de la moitié des joueurs qui sont en bas de 23 ans. Donc, comme j'ai dit plus tôt, c'est difficile d'être compétitif parce qu'on est une jeune équipe. Mais justement, les jeunes joueurs et à Victoriaville ont la chance de se développer puis ont la chance de s'améliorer jour après jour. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet pour la suite de notre équipe dans les années futures.
Parce que si je me trompe pas, toi, c'est comme ça que tu as commencé. Là. Avant de te faire repêcher par les Lynx, tu faisais partie du club Prospect des Lynx, c'est ça?
Oui, donc moi, c'est ma deuxième année au sein de la LNHB Prospect des Lynx. Et l'année dernière, en fait, je m'étais fait approcher en faisant des tournois, justement, de la classique Alex Burrows. Je me suis fait approcher, puis ils m'ont mentionné qu'ils aimeraient bien ça, que j'aille rejoindre leur équipe LNHB Prospect. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me développer, me faire connaître. Puis par la suite, l'hiver dernier, je me suis fait repêcher lors du 4e repêchage de la Ligue.
Wow, mais toutes mes félicitations, Félix. Puis on entend des fois que les joueurs de la LNHB sont bien payés pour leur travail. Donc, si tu me permets de te poser cette question-là, Félix, combien ça gagne environ un joueur de la LNHB? Pas nécessairement toi, mais en moyenne, par match, jusqu'à combien un joueur de la LNHB pourrait s'attendre à toucher?
Oui, donc les équipes ont pas de masse salariale comme on pourrait penser. Cependant, il y a un salaire maximum et minimum pour les joueurs. Donc, les joueurs, le salaire minimum est de 25$ par partie. Puis le salaire maximum est 500$ par partie. Donc, pour être honnête avec vous, il n'y a pas énormément de joueurs qui gagnent jusqu'à 500$ par partie. Mais souvent, les équipes et les organisations s'organisent pour récompenser leurs joueurs différemment, notamment en leur offrant des cartes cadeaux de gaz ou des repas après les parties et de l'équipement, l'équipement et des vêtements fournis à l'effigie de l'équipe. Donc, le salaire est pas vraiment important pour nous en ce moment. T'sais, on joue vraiment pas pour le salaire. Mm-hmm. On joue surtout pour le plaisir puis la compétition qu'on peut retrouver dans cette ligue-là. Mais c'est sûr qu'au cours des prochaines années, on espère que ça va augmenter puis que le salaire également va suivre l'expansion de la ligue.
Oui, ben c'est sûr et certain. T'sais, en fonction de comment la ligue évolue, t'sais, plus qu'il y a de fans, plus qu'il y a de supporters qui vont commencer à assister au match, et c'est sûr que les équipes vont avoir de plus en plus de recettes, donc techniquement un peu plus de budget, parce qu'on s'entend qu'avec 25$ par game, tu t'en vas pas loin à part pour aller t'acheter ta bière ou pas la cachette après, tu sais.
Non, exact. En effet, c'est sûr que c'est pas la grosse affaire, comme on dit, mais c'est suffisant pour inciter les joueurs à venir jouer puis pour avoir du plaisir tous ensemble. On peut penser un peu dans les ligues seniors régionales, donc c'est un peu le même principe. Les joueurs sont pas énormément payés, mais sont surtout là pour représenter leur région et pour avoir du plaisir dans une ligue assez compétitive.
Ouais, vous êtes là parce que vous êtes passionné dans un sens, tu sais, c'est pas le salaire qui vous fait venir, mais c'est surtout l'amour pour le hockey, puis c'est quelque chose de très important, je pense. Puis on va continuer de parler OK, avant la pause, on va revenir un peu sur la fameuse histoire de Cédric Paré, un nobody, selon moi, que, comme Félix a mentionné, joue dans la LNHB, mais qui est aussi un joueur de l'organisation des Maple Leafs de Toronto, qui, lors du dernier match préparatoire du Canadien contre les Maple Leafs, sorti le genou contre la nouvelle acquisition des Canadiens, fameux Patrick Laine, un joueur finlandais, un excellent joueur, si je peux me le permettre, là, de la QV d'Austin Matthews, joueur qui avait marqué au-dessus de 40 buts son année recrue et qui finalement va se retrouver sur la touche pour on ne sait combien de temps pour l'instant. Donc la mise en échec est survenue samedi, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc Cédric Paré, quel geste inutile. Félix, je sais pas si tu as vu la mise en échec, mais Patrick Laine se tordait de douleur après. Puis on va pas se cacher, c'est un match qui valait absolument rien dire. Là, le Canadien jouait contre l'équipe B des Maple Leafs avec aucun joueur partant en uniforme. Cédric Paré, qui est genre un des pires joueurs de soutien de la Ligue nationale, qui a fait un geste que les Québécois sont absolument pas d'accord. Là. On parlait un peu en onde aujourd'hui. Avant d'entrer en onde, en fait, moi je tenais à dire à Cédric Paré que si le Québec devient un pays un jour, Cédric Paré, t'auras pas ton passeport parce que les fans du Canadien de Montréal vont faire une pétition puis ça passera pas. Je m'excuse. Donc, Félix, parle-moi un peu des Canadiens. On a eu plusieurs acquisitions quand même depuis la fin de l'année dernière. On sait que le Canadien est une équipe en reconstruction, comme les Lynx de Victoriaville dans la LNHB. Une reconstruction à une toute autre échelle, par contre. Donc, le Canadien qui avait le 5e choix total de l'encan 2024 de la Ligue nationale, dont on a été chercher le fameux talentueux joueur russe Ivan Demidov, un joueur que les partisans du Canadien attendaient avec impatience, un joueur aussi qu'on s'attendait pas à repêcher au 5e rang. Donc, je pense qu'on peut tous se consoler. Cependant, le Demidov va continuer de jouer en Ligue d'élite en Russie cette année, dans la KHL. Mais il y a un très bon début de saison. Là. Le seul joueur de 22 ans et plus, je pense qu'il y avait un meilleur début de saison que lui et nul autre qu'Alex Kovalev, qui avait réussi, je pense, 18 points en 12 matchs à 21 ans et quelques jours. Là. Puis Demidov est sur la même lancée, mais 3 ans plus jeune. Là. Donc, ça regarde bien pour un joueur qui potentiellement pourrait rejoindre les rangs du Canadien l'année prochaine. J'aimerais aussi parler de Michael Hage, qui était le 21e choix du Canadien. Donc, un très bon camp pour Michael Hage aussi, qui malheureusement, là, il prend pas part au camp d'entraînement. Même chose pour Ivan Demidov. Donc, ça nous amène à parler justement de Patrick Laine, qui avait été une acquisition du Canadien cet été. Donc, un échange de la part de Kent Hughes, qui avait réussi à aller chercher là, un Patrick Laine qui évoluait avec les Blue Jackets de Columbus depuis quelques saisons. Donc, un très bon échange. Ben, en fait, ça s'avérait être un très bon échange jusqu'à sa blessure en fin de semaine. Et un match qui a été marqué aussi par la blessure de David Reinbacher, le 5e choix overall l'année passée aussi, si je me trompe pas. Donc, Reinbacher qui a subi une mise en échec qui était légale, somme toute, là, mais qui l'a quand même envoyé au tapis. Puis là, il va manquer 6 mois d'activité. Et pour l'instant, on va donc devoir vous quitter en pause pendant quelques instants et on vous revient avec la suite de hors-jeu dans quelques instants. Donc, merci beaucoup tout le monde et à tout de suite. Donc, nous sommes de retour pour ce dernier segment hors jeu. Donc, on va continuer notre lancée sur les Canadiens. Donc, on vient d'apprendre à l'instant que Joshua Roy va jouer sur la première ligne ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est l'avant-dernier match de la pré-saison pour le Canadien. Joshua Roy, qui est un ancien joueur du Phoenix de Sherbrooke, qui a évolué ici pendant 2 saisons, si je ne me trompe pas, des saisons auxquelles le Phoenix était très dominant, des saisons où Josh portait le Phoenix sur ses épaules, là, accompagné de plusieurs autres joueurs d'impact. Mais justement, la blessure de Patrick Laine va rendre certains joueurs contents, dont Joshua Roy, qui a quand même réussi à se tailler une place en fin de saison avec le grand club l'année passée. Mais là, avec les nouvelles acquisitions de cette année, c'était un peu plus une décision en l'air là, pour Josh. On savait pas trop où est-ce qu'il allait commencer la saison. Mais là, on peut présumer qu'avec la blessure de Patrick Laine, Joshua Roy va commencer le début de saison avec le grand club. Et même chose pour Oliver Kapanen aussi, là, qui est un très bonne pré-saison, très bon camp aussi. Donc, Félix, veux-tu nous parler de Kapanen un peu?
Oui, donc c'est un jeune que pas nécessairement tout le monde voyait ici en ce moment, mais il se débrouille très bien. Il a des très bonnes parties hors concours. Puis, comme Julien disait, la blessure à Patrick Laine va certainement lui laisser un trou dans l'alignement. Donc, ça va être à lui de faire ses preuves. Mais selon moi, il a des très bonnes chances de commencer l'année à Montréal. Puis, comme on le sait, à Montréal, souvent, il y a des blessures année après année. Donc, je serais pas surpris qu'on le voit jouer au moins la moitié des matchs et sinon plus. Donc, pour le Canadien, on voit que la relève est super bonne. Puis que dans les prochaines années, si les jeunes continuent à se développer aussi bien, le Canadien pourrait avoir des chances d'être compétitif parmi les meilleures équipes.
Parlant des joueurs qui nous ont agréablement surpris en cette pré-saison, j'ai le goût de parler aussi des joueurs qui m'ont un peu déçu. Notamment Lennotin, qui a quand même bien débuté la pré-saison là, avec deux passes, je pense, dans les deux premières victoires du Canadien, là, des victoires qui s'étaient scellées par la marque de 4-0 et 5-0, si je m'abuse. Donc on s'attendait quand même à une bonne suite des événements pour le Canadien, qui ont finalement tombé au combat à deux reprises contre les Maple Leafs dans les deux derniers matchs. Bon, on s'attend quand même à les voir rebondir là, contre une équipe des Sénateurs d'Ottawa qui est en reconstruction aussi, là. Les Sénateurs qui sont menés par un certain Brady Tkachuk qui est un Tim Stützle. Donc, ça va être un gros match ce soir, un des derniers matchs de la pré-saison, mais encore une fois, Lane Hudson va devoir en faire plus. Puis ça m'amène aussi à parler de Logan Mailloux. Logan Mailloux qui est un espoir longuement attendu par les Canadiens, un joueur qui avait fait polémique lorsqu'il avait été repêché, mais qui démontre sans cesse là, depuis cette histoire-là qui c'est un très bon joueur de hockey, un joueur très physique, mais avec un sens offensif très développé aussi, mais qui malheureusement là, peine à produire en cette pré-saison. Et c'est pas le seul. Mailloux, Lane Hudson pourrait dire aussi la même chose de certains joueurs établis comme Josh Anderson, Brendan Gallagher et Christian Dvorak. Moi, je comprends toujours pas comment Marc Bergevin nous a privé d'un choix de première ronde pour aller chercher un joueur de la trempe de Christian Dvorak là, qui, selon moi, pourrait évoluer sur le quatrième trio de n'importe quelle équipe de la LNH. Mais bizarrement, avec le Canadien, il joue sur la 3 ou sur la 2. Parce que on sait, il nous manque de joueurs de centre. Puis c'est quelque chose qui change pas après année après année. Donc là, heureusement, on va espérer que Alex Newhook et Kirby Dach, deux joueurs qui peuvent évoluer au centre sur la deuxième ligne, ne se blessent pas en ce début de saison. Parce qu'on se rappellera qu'on a perdu les services de Kirby Dach en début de saison l'année dernière. Donc, on va espérer une saison où est-ce qu'on va avoir beaucoup moins de joueurs de blessés pour le Canadien. Principalement là, dans les deux derniers matchs préparatoires, on va espérer que l'histoire contre les Maple Leafs ne se reprenne pas. Le prochain match va être ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa et les Canadiens vont jouer aussi leur dernier match contre les Sens jeudi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ce qui clôt notre petit segment sur la Ligue nationale. Félix, tout comme moi, tu es un grand, grand fan de la NFL. Donc, il y avait fait plusieurs matchs en fin de semaine. On n'est pas rendu au bye week encore. Donc, toutes les équipes avaient un match et il reste seulement deux équipes invaincues. Donc, après les deux premières semaines d'activité, là, on avait huit équipes invaincues et pourtant, aujourd'hui, il reste juste les Chiefs qui ont finalement réussi à l'emporter in extremis là, contre les Chargers. Chargers qui avaient mené le match jusqu'à la mi-temps par la marque de 10-0, si je ne me trompe pas. Et il reste aussi les Vikings. Donc, les Vikings menés par un certain Sam Darnold, premier choix des Jets de New York il y a quelques années. Sam Darnold qui a eu un début de carrière, ma foi, très difficile. Et pourtant, Félix, Darnold est le leader en passes de toucher cette année-là.
Oui, donc c'est sûr qu'avec un receveur de la trempe de Justin Jefferson, pas que ça facilite la tâche, mais on peut s'entendre pour dire que Justin Jefferson est un joueur étoile année après année. Donc, Sam Darnold est chanceux de pouvoir compter sur lui.
Ouais, puis on peut le voir dans le cas de Darnold, là, c'est personnellement, moi, je crois pas que c'est lui qui manquait de talent, mais c'est plutôt les systèmes dans lesquels il a évolué au début de sa carrière. Là, donc, les Jets, qui étaient une franchise médiocre au moment où il a été repêché. Même chose pour les Panthers, qui sont encore une fois médiocres cette année. Là, on a vu Bryce Young se faire clouer au banc. Bryce Young qui est l'ancien choix de première ronde, l'ancien premier choix total en fait l'année dernière, dont les Panthers avaient échangé plusieurs choix et des bons joueurs contre la possibilité de repêcher Bryce Young. Et après une saison et deux matchs, Bryce Young est sur le banc, remplacé par un certain Andy Dalton, un vétéran de nombreuses années qui effectuait son retour au jeu contre son ancienne équipe, les Bengals, en fin de semaine. Et on s'attendait à un match miracle de la part d'Andy Dalton, qui a malheureusement pas été capable d'aller chercher une deuxième victoire de suite là, en perdant contre les Bengals de Joe Burrow par la marque de 34-24. Mais moi, j'aimerais souligner surtout le travail là, de certains joueurs recrues en ce début de saison, notamment le carrière, ancien carrière des Tigers de LSU, soit Jaden Daniels, le nouveau carrière des Commanders de Washington. Très bon début de saison pour Jaden Daniels, là, qui en ce moment est le premier carrière recrue là, pour le prix du joueur offensif recrue par excellence. Donc, Jaden Daniels qui casse tout, si je peux me permettre de dire ça, là, surtout que l'offensive des Commanders n'a pas effectué un botté de dégagement. Félix, si je ne me trompe pas, depuis...
Dans les trois derniers matchs, ouais, les Commanders n'ont pas effectué un botté de dégagement, ce qui représente, selon moi, un record de la Ligue. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense bien que c'est la première fois que ça arrive. Puis c'est certainement la première fois que ça arrive pour un carrière recrue.
Ouais, ben c'est quelque chose d'exceptionnel. On le voit, Jaden Daniels, qui a seulement manqué 4 passes en fin de semaine. Donc, il a complété 26 de ses 30 passes. La semaine dernière, il avait complété 21 de ses 23 passes. Et la semaine d'avant, 23 de ses 29 passes. Là. Donc, Jaden Daniels qui démontre à tout le monde en ce moment... pourquoi c'est un des joueurs recrues de l'heure avec le jeune receveur, ancien receveur des Tigers et LSU aussi, Malik Nabers, qui est en train de démonter la ligue comme receveur, là, lui qui avait été repêché par les Giants de New York aussi. Nabers qui évolue avec un carrière médiocre, si je peux me permettre, là, en Daniel Jones. Et pourtant, Malik Nabers qui réussit à avoir une saison là, incroyable. On a encore 12 attrapés en fin de semaine pour un total de 115 verges. Donc, dans ces trois derniers matchs, là, si je fais bien le compte, là, on est rendu à 45 targets pour Malik Nabers sur trois matchs. Et dans ces trois matchs-là, il y a eu 30 réceptions pour au moins 300 quelques verges et 3 touchés. Là. Donc, très bonne performance de Malik Nabers aussi en ce début de saison. Là. Selon moi, ça va être les deux candidats potentiels pour le trophée de rookie, la recrue offensive là, de l'année. Donc, c'est des semaines qui vont de plus en plus vite dans la NFL. Donc, on est déjà rendu à la semaine 5 qui va commencer jeudi, alors que c'est les Buccaneers qui vont affronter les Falcons. Les Buccaneers qui sont menés par un certain Baker Mayfield, qui lui aussi, comme Sam Darnold, a un excellent début de saison. Baker Mayfield qui avait eu un début de carrière assez médiocre aussi, avec les Browns de Cleveland. Et sans oublier là, que Baker était un des meilleurs prospects, si je peux me permettre l'anglicisme, là, avec Patrick Mahomes, les deux qui étaient sortis dans le même encamp. Et moi, ça me rappelle juste à quel point Baker et Mahomes, leur match l'un contre l'autre était époustouflant. Là, si je me rappelle bien, là, il y a le dernier match qui se sont affrontés. Mahomes avait terminé avec comme 700 verges par la passe, je pense, puis de quoi comme 7-8 touchés. Puis même chose pour Baker Mayfield. Là, donc la fin de saison dans la NFL qui est encore loin, mais on s'approche de la mi-saison là, puis les Buccaneers puis les Chiefs, selon moi, là, sont deux équipes qui sont très excitantes et j'ai très hâte de voir la suite pour ces deux équipes. Et ça nous amène à la fin de notre émission. Donc, Félix, un grand merci pour ta participation. Un grand merci aussi de nous avoir présenté la LNHB. Je pense que c'est quelque chose qui est pas assez connu par la communauté à Sherbrooke, notamment par la communauté étudiante, mis à part les personnes qui jouent dans cette ligue. Donc, merci de ta participation, mais Félix.
Ça me fait plaisir. Donc, j'espère bien avoir une autre invitation d'ici la fin de l'année.
Ah oui, certainement, avec le début de saison du Canadien qui approche, sachant que tu es un grand fan fini de hockey, et la continuation aussi la saison dans la NFL. Je vais te recevoir très prochainement avec plaisir, Félix. Donc, c'est ce qui clôt notre émission cette semaine. Merci à tous pour votre écoute et on se revoit la semaine prochaine sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici.